Cédric Biagini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des animateurs des éditions L'Échappée. Vous écrivez régulièrement pour les journaux La Décroissance et Offensive. Et vous étiez samedi dernier à Liévin, au LAG, pour une discussion autour de votre dernier bouquin en date qui s'appelle L'emprise numérique, comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies. Alors cette rencontre avait pour thème plus précis les réseaux sociaux et notamment le réseau Facebook. Alors peut-être vous pouvez nous rappeler un petit peu à travers quelques données, quelques chiffres, l'importance prise par ce site internet Facebook.
Facebook donc qui est un site, mais au-delà d'un site en fait c'est ce qu'on appelle un réseau social, c'est-à-dire un réseau social donc là au sens je dirais numérique du c'est un réseau en fait dans lequel les gens s'inscrivent en fait en répondant à un certain nombre de questions, vont ensuite avoir une page à eux comme une page web qui va contenir en fait un certain nombre d'informations les concernant donc eux-mêmes, leur activité et puis souvent donc leur centre d'intérêt, leur passion, et cette page va être accessible soit à tout le réseau soit à ceux qu'on appelle les amis. Donc dans le jargon de Facebook, en gros, c'est des gens qui vont pouvoir donc être en permanence connectés à eux. Et puis, grâce à un certain nombre d'outils techniques, de fonctionnalités, comme le fil d'actualité, ils vont pouvoir suivre ce qui se passe sur les pages web des autres membres, de leurs amis. Et puis, les autres vont aussi pouvoir faire de même et suivre, eux, ce qu'ils font. Donc voilà, en gros, le modèle de Facebook. Mais je ne vais pas trop m'étendre dessus, puisque je pense que voilà, beaucoup de gens sont membres de Facebook. Puisqu'en France, je crois qu'on compte, en tout cas, quand j'ai écrit le livre, à l'été 2012, on comptait 25-26 millions de membres, donc ce qui est assez énorme pour une population comme celle de la France. Donc on se rend compte que beaucoup de gens qui sont connectés, qui sont sur Internet, participent à ce réseau et ils passent un certain nombre de temps chaque jour, quotidiennement, puisque la moyenne est de 55 minutes passées sur Facebook, donc pour les gens qui en sont membres, et pour des plus jeunes générations, des gens qui ont par exemple entre 17 et 24 ans, je crois que ces chiffres peuvent monter jusqu'à 2 heures en moyenne, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui passent beaucoup plus de temps. Donc ces réseaux ont pris énormément de place, d'autant qu'il n'y a pas que Facebook comme réseau social, il y a des réseaux aussi qui concernent plus particulièrement le monde professionnel, comme Viadeo, LinkedIn, qui ont aussi beaucoup d'adhérents, et puis il y a un ensemble d'autres réseaux de type MySpace ou des réseaux plus spécifiques. Donc on estime que, j'ai pas les chiffres devant les yeux, mais de mémoire à peu près, que en moyenne les gens adhèrent à peu près à 2,8, je crois, réseaux sociaux, et pour certains jeunes sont sur 6 ou 7 réseaux sociaux en même temps.
Au départ, Facebook, c'est un trombinoscope, ni plus ni moins. Sur quelles valeurs, quelles idées se fondent à la base ce site? Et puis aujourd'hui, quelle en est l'ambition?
Alors ce qui est intéressant, en effet, tout à fait, vous avez tout à fait raison de poser cette question, parce qu'assez souvent, et notamment dans le monde numérique, on a l'impression que les choses arrivent comme ça, on ne sait où. Vous voyez, un côté magique dans la technologie, toujours. Alors que, si on veut analyser un peu plus la situation, développer un esprit critique par rapport aux choses, il est toujours intéressant de savoir d'où elles viennent, comment elles se sont construites, et qu'est-ce qu'il y a derrière. Alors, dans le cas de Facebook, bon, il y a le film de David Fincher sur les débuts de Facebook, qui est assez éclairant, je trouve, à ce sujet, qui s'appelle The Social Network, qui explique un petit peu la genèse du projet. En fait, Mark Zuckerberg était un étudiant d'Harvard et il a été plaqué par sa compagne, ce qu'il a très très mal vécu. Et dans un esprit de revanche, il avait décidé de créer un site, enfin pas vraiment un site au départ, puisque ça ne concernait que Harvard, mais de mettre en fait en ligne, en piratant le serveur d'Harvard, les photos de toutes les filles du campus, et que chacun pourrait évaluer ses filles en fonction de son physique, de sa beauté, du fait que cette fille soit ou pas sexy. Ça a très très bien marché, ça a créé un petit événement, et ensuite à partir donc de ce face mash, il a créé Facebook, donc le trombinoscope, qu'il a élargi donc à l'ensemble de la fac, puis aux grandes écoles, puis à des cercles de plus en plus larges, pour aller jusqu'à donc le phénomène qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire un milliard environ de membres, en tout cas, qui sont revendiqués par Facebook. Donc au départ, Facebook est essentiellement un site qui se base sur la sociabilité des grandes écoles américaines et ses valeurs qui sont La séduction, qui sont le fait d'étendre son réseau. Il y a cette idée qui est toujours sous-jacente, hein, ça, je pense qu'elle est toujours très présente dans ces grandes écoles, y compris ici, c'est que c'est le réseau de chacun qui va donner en fait son pouvoir, le réseau, et puis cette capacité à être très très actif sur ce réseau qui va faire que les gens vont pouvoir donc devenir, comme on dit maintenant dans les écoles, populaires, entre guillemets, c'est-à-dire être connu de beaucoup d'autres gens, développer, donc pour moi, parce que j'analyse, développer une forme de narcissisme, une forme de puissance, qui passe par une omniprésence sur ces réseaux. Donc celui, quelque part, qui va avoir le plus d'influence va être celui qui va avoir le plus d'amis. On est toujours dans le quantitatif. Ça va être aussi celui qui va donner le plus d'informations, qui va avoir une activité très très intense, que beaucoup de gens vont suivre. Donc il faut, et aujourd'hui ce phénomène, je dirais, existe des collégiens jusqu'aux hommes politiques, qui ont bien compris donc que pour montrer leur pouvoir, pour développer leurs influences, il faut qu'ils aient une forte activité connectée.
Et aujourd'hui, donc le site ambitionne de devenir un peu la porte d'entrée du web, c'est ça ?
Alors le site, alors Mark Zuckerberg, vous voyez, c'est un petit peu comme ces techno-entrepreneurs, que ce soit les Larry Page et Serge Brin de Google ou Bill Gates en son temps avec Microsoft, ils ont toujours des ambitions démesurées. Donc une des grandes ambitions de Facebook, qui nous en dit beaucoup sur ce site, ça a été de faire ce que Mark Zuckerberg appelait un graphe social, c'est-à-dire de montrer l'ensemble de modéliser quelque part au travers de Facebook l'ensemble des rapports humains à l'échelle planétaire. Donc, vous voyez toujours ces projets un peu délirants, quasi démiurgiques, hein, comme les dirigeants de Google qui ont pour ambition d'organiser l'information mondiale. Facebook avait cette ambition, en tout cas c'était ce que déclarait son dirigeant. Après, aujourd'hui, on se rend compte que Facebook a de plus en plus tendance à se transformer comme une porte d'entrée au web, une interface qui permettrait à ses membres, au travers de Facebook, d'avoir accès aux vidéos, d'avoir accès à un certain nombre d'informations, d'avoir accès à l'ensemble du web. Donc je sais qu'il y a pas mal de gens, notamment dans des milieux plus autour du logiciel libre ou d'un informatique un peu différent, qui s'en inquiètent. Et en même temps, évidemment, du côté de Facebook, l'idée est bien celle-ci de devenir vraiment une interface d'entrée au web. Tout à fait.
Je dois faire quelque chose de marquant pour attirer l'attention des clubs de la fac.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont sélects et ludiques et qu'ils ont tendance à améliorer la vie. Les gens aiment aller sur le net sans regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on créerait pas un site qui offrirait tout ça à des amis, des photos, des profils ? Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne.
Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de 2 heures ?
22 000. 22 000 connexions.
Derrière ce trombinoscope et ce monde où tout le monde est beau et ami, il y a aussi toute une organisation économique et là, avec des enjeux très importants à la fois au niveau du contrôle de l'information, mais aussi de la monétisation des informations personnelles, de nos informations finalement.
Tout à fait. Les membres de Facebook ont toujours l'impression, c'est comme les gens qui utilisent Google, d'avoir affaire soit des choses magiques, je dirais, qui se développeraient sur le web comme ça. Hein, vous voyez, il y a cette dimension-là, une espèce de naturalisation de cette technologie qui serait là. Ou pour ceux qui sont un peu plus lucides, se rendent bien compte qu'il peut y avoir des structures derrière, mais ils ne se rendent pas compte que derrière, ce sont quand même des entreprises, des réelles entreprises, hein, qui sont aujourd'hui d'ailleurs les entreprises quasiment les plus puissantes du monde, hein, les entreprises qui sont valorisées en bourse. Hein, on sait que la mise en bourse sur le marché, la bourse de Facebook la valeur de Facebook était de 104 milliards de dollars, hein, ce qui était une entrée en bourse fracassante, énorme, hein, qui dépassait déjà Hewlett-Packard et d'autres grandes multinationales déjà bien installé. On se rend compte que derrière, il y a quand même des enjeux financiers assez énormes et des logiques donc qui vont avec ces sommes-là, qui sont des logiques purement mercantiles qu'il ne faut pas oublier, qu'on a tendance à négliger. Et notamment, tout le problème pour Mark Zuckerberg et Facebook est de savoir comment monétiser en fait son activité qui, en effet, est gratuite. Ça, c'est vraiment dans les premières conditions de Facebook, hein, qui c'est Facebook est gratuit et le restera. Donc pour le rester, et continuer à se développer, puisqu'il y a toujours cette idée quand même de se développer, de conquérir du terrain, de conquérir des marchés, d'aller dans les pays où Facebook n'est pas implanté. Il faut évidemment de l'argent, et puis de toute façon, l'entreprise étant valorisée en bourse, les gens qui sont derrière, que ce soit Zuckerberg ou les différents fonds d'investissement, sont là pour avoir une entreprise rentable. Donc là, Facebook étant un service gratuit, hein, comme on disait, si sur Internet... Là, je cite de mémoire, si sur Internet un service est gratuit, c'est que le service, c'est vous. Et dans le cas de Facebook l'illustre parfaitement. C'est-à-dire que le tas d'or sur lequel est assis Zuckerberg et Facebook, ce sont les données, donc les données que vont librement donner les membres de Facebook au site. Donc toute cette masse d'informations dont ils disposent à la fois dans les profils des membres, à la fois dans les échanges qu'ont les membres entre eux, va permettre au site de gagner de l'argent, puisque le site gagne son argent grâce à la publicité pour 85%. Vous voyez, 85% de son activité vient de la publicité. Hein. Et Google, par exemple, on atteint des sommes comme 96%. Donc cette publicité peut prendre différentes formes. Ça peut être à la fois les publicités que vont mettre en place les marques directement avec Facebook, avec les pages de fans des marques. Ça peut être au travers de ce qu'on appelle le marketing viral, le fait d'envoyer une publicité à un certain nombre de gens qui eux-mêmes vont l'envoyer à leur réseau. Et ce qui est assez magique avec Facebook, c'est qu'il suffit par exemple qu'un membre de Facebook fasse un commentaire d'une publicité virale, donc sous forme de vidéo qu'il a vue, pour qu'un autre ami, un de ses amis, soit au courant de ce commentaire, ait envie d'aller voir la publicité, lui-même la commente, et en la commentant, d'autres gens vont savoir qu'il l'a fait, etc., etc. Donc ça, c'est une forme qui est très très intéressante pour les annonceurs, puisque ça permet à la fois de diffuser une publicité sans avoir à payer, comme ils avaient à le faire par exemple des affiches ou comme ils avaient à le faire pour la télévision, hein. Ils payent mais des sommes inférieures à ce qu'ils avaient à payer sur ces supports-là. En plus, ce sont donc les consommateurs eux-mêmes qui vont les diffuser, donc c'est un coût moindre, mais en plus les gens qui vont recevoir cette publicité auront tendance à plus adhérer au message publicitaire parce que c'est un de leurs amis qui leur a recommandé par exemple. Donc ça, c'est une des sources de financement. Et ce qui est aussi très intéressant pour les annonceurs, c'est que depuis très longtemps, l'objectif de la publicité est de toucher au plus près sa cible, hein, c'est-à-dire de ne pas être dans un marketing de masse, mais de vraiment bien cibler. C'est ce qu'on appelle le marketing one-to-one, de la marque à la cible. Et là, évidemment, ces publicités en touchant, je ne sais pas, une publicité par exemple pour une voiture de sport qui va toucher des jeunes hommes, je ne sais pas, on va dire de 20 à 35 ans, intéressés par le sport, la vitesse, etc., leur envoyer une publicité à eux, ça va être beaucoup plus intéressant que d'envoyer une publicité à des centaines de millions de gens indistinctement. Donc vous voyez qu'en même temps, ça permet de cibler. Aussi, Facebook peut monétiser son activité parce que tout ce qui passe sur Facebook peut être étudié, hein, peut être étudié, les mots, les noms des marques, les noms des produits, etc. Et ça coûte beaucoup moins cher et c'est peut-être même plus fiable que des sondages pour savoir un petit peu la manière dont les consommateurs ont reçu un produit ou ce qu'ils pensent d'une marque. Et ça, les marques qui veulent toujours affiner leurs offres sont très curieuses de savoir comment elles sont perçues, qu'est-ce que l'on peut leur reprocher, qu'est-ce qu'on peut reprocher à certains de leurs produits. Donc ça aussi, Facebook a bien compris qu'il pouvait aussi vendre ça aux marques. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la plupart des grandes entreprises d'aujourd'hui, se sont développées certaines activités comme les community managers, donc des gens qui sont chargés à la fois de faire une veille sur ces réseaux sociaux pour savoir ce qu'on dit, par exemple, de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, mais à la fois aussi de créer des animations sur ces réseaux sociaux pour fidéliser les gens, pour intéresser les gens à un certain nombre de produits. Donc il y a toute une mécanique qui s'est enclenchée, qui ne permet sûrement pas encore à Facebook de gagner autant d'argent qu'il le devrait par rapport à leur introduction en bourse, aux sommes que ça représentait, mais qui leur permet quand même de faire beaucoup, beaucoup d'argent. Je crois que Mark Zuckerberg disait à un moment que grâce à tout ça, il réussissait, grâce à ce qu'ils appellent les liens sponsorisés, ils arrivaient déjà à gagner 1 million de dollars par jour. Facebook, rough user. Facebook, rough user. Break down my walk of it, so that I quit it all. Never look back, like this.
On est toujours par téléphone en compagnie de Cédric Biagini, auteur du livre « L'emprise numérique, comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies ». Au-delà de l'organisation économique du site, ce réseau social pose aussi des questions par rapport à l'utilisation qu'on peut en faire, quoi. Vous posez un petit peu dans votre livre les questions de l'hyperinformation, de l'apprentissage des connaissances, du rapport à la mémoire, de la connexion permanente. Un mot sur toutes ces idées ?
Alors en fait oui, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'idée sur Facebook et plus largement sur Internet, c'est d'être connecté un maximum de temps, hein, et notamment grâce au smartphone. On n'est plus obligé d'être uniquement connecté chez soi devant son ordinateur, mais on peut être connecté partout. Donc les gens, en fait ces utilisateurs-là, ont tendance à se laisser complètement happer par ces technologies, ont tendance à être en perpétuel état d'attente de ce qui peut se passer de nouveau, vous voyez, une impatience permanente, sont tout le temps en train d'avoir leur smartphone en main, de le regarder, de voir ce qui peut se passer, qu'est-ce qui a bougé sur leur mur, hein, ce qu'on appelle le mur sur Facebook, et en fait, hyper communiquent donc avec des gens dont ils sont peut-être éloignés physiquement, mais qu'ils ont pour amis sur Facebook ou avec qui ils estiment avoir des centres d'intérêt. Et en même temps, cette hyper communication virtuelle entraîne un déficit de communication directe, puisqu'on se rend compte que ces gens-là ne sont jamais vraiment présents là où ils sont. Ils ne sont jamais vraiment présents. Il y a une absence, en fait, au monde et aux autres du fait de cette hyper-connexion. Et toutes les stratégies des entrepreneurs du web est de faire en sorte que les gens se connectent en permanence et aient une activité la plus développée possible sur ces réseaux numériques. Donc on se rend compte que à la fois ces gens disposent d'une masse incroyable de connaissances, d'informations, mais qu'ils ont de moins en moins les capacités intellectuelles de s'enrichir, puisqu'en fait face à cette masse, ils ne savent pas forcément où s'orienter, et en plus ils sont perpétuellement distraits par de nouvelles informations ou par ce qui peut arriver. Alors qu'on sait très bien que pour vraiment développer une pensée, comprendre des phénomènes, nous avons besoin de temps, nous avons besoin de durée, nous avons besoin d'une attention profonde, aux choses, d'une attention profonde aux autres, et toute cette technologie nous empêche d'avoir cette attention, puisque en permanence, elle nous distrait, en permanence, elle nous empêche d'être avec nous-mêmes et d'être avec les autres. Et de plus en plus, ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, ces machines que nous avons construites, que les humains ont construites, sont, elles, en train de nous façonner de plus en plus et de nous faire fonctionner comme elles. C'est-à-dire qu'elles nous réduisent, elles nous simplifient. Nous faisons les choses de manière, je dirais, de plus en plus utilitariste et selon des procédures les plus simples possibles, nous sommes entrés vraiment dans le règne de l'efficacité. Donc nous avons des machines à qui nous avons de plus en plus délégué du pouvoir, qui gèrent de plus en plus de choses, et en retour, nous-mêmes, nous mettons de plus en plus à fonctionner au rythme de ces machines.
Alors justement, lors du débat au LAG à Liévin samedi dernier, c'est une question qui a été posée, hein, c'est la question de la neutralité de la technologie. Il y a des gens qui pensent que bon, même avec une technologie pas terrible ou mauvaise ou potentiellement nuisible, on peut faire des bonnes choses. Il y a un bon usage de mauvaises choses.
Oui, alors ça c'est un débat en fait qui revient à chaque fois, donc moi, enfin que j'interviens ou que d'autres interviennent sur ces questions-là. C'est un vieux débat, hein, c'est un vieux débat qui est celui de la neutralité de la technique, de penser qu'en fait une technique en elle-même n'induit pas un usage et que tout dépend de ce qu'on en fait. Hein. Donc on pourrait, je sais pas, avec une corde de piano, comme j'avais entendu lors d'un débat, étrangler quelqu'un comme jouer de la musique. Donc ça c'est souvent ce qu'on entend. Donc on pourrait bien utiliser Facebook pour des choses intelligentes, comme on pourrait faire des choses stupides avec. Et ça en fait, tout mon travail, on va dire militant, intellectuel, essaye de montrer le contraire, de montrer qu'une technologie induit déjà un certain type d'usage. Alors c'est sûr qu'avec un fusil, par exemple, on peut casser une noix, mais la fonction quand même du fusil est de permettre, par exemple, le meurtre à distance. Et à partir du moment où le meurtre à distance a été permis par ce type d'arme, on a vu les équilibres entre les différentes nations, on va dire, modifiés. C'est-à-dire que ça a une influence importante. Donc je prends cet exemple du fusil très éloigné des nouvelles technologies, mais pour montrer qu'une technologie en elle-même porte un usage et qu'une technologie va modifier le monde, va modifier une certaine partie du monde. C'est le principe même de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne vivons pas dans le monde, dans la même société que dans les années 70, avec l'ordinateur en plus, que l'on pourra utiliser ou pas comme bon nous semble. Nous vivons dans la société de l'ordinateur. Et cette société, le fait qu'elle s'appuie de plus en plus sur l'informatique et sur les réseaux numériques, ça a de réelles conséquences sur nos vies, indépendamment même de l'usage que chaque personne individuellement peut faire. J'ai souvent des gens en débat qui me disent « Oui, moi, grâce à Internet, j'ai pu découvrir des choses, je peux rentrer en relation avec des gens en Australie. » Bon, ben, oui, indéniablement, oui. Là, je veux dire, j'ai pas à juger de ça. Mais en revanche, ce que j'essaie de comprendre, c'est plus globalement, dans une perspective plus large, qu'est-ce que ces nouvelles technologies impliquent, induisent et quel type de société elles construisent. Et là, on voit bien qu'elles construisent une société totalement différente de la précédente. C'est pour ça que l'on parle de révolution numérique. Si la technologie était neutre, je ne vois pas pourquoi on parlerait de révolution numérique. On pouvait faire tel ou tel usage, on aurait le choix de s'en servir ou pas, je ne vois pas pourquoi on parlerait de ça. Si on parle de révolution numérique, c'est bien que tout notre rapport aux autres, notre rapport au temps, notre rapport à l'espace et notre rapport à nous-mêmes sont en train d'être modifiés par ces technologies et dans une direction bien déterminée. C'est-à-dire que ce n'est pas on peut prendre telle ou telle option, non. C'est toujours dans une logique du triomphe de la raison utilitariste, de la rationalisation, de l'efficacité, de la mise en gestion. Pour revenir à Facebook dont on parlait tout à l'heure, pour moi, Facebook, je l'analyse vraiment comme une mise en gestion des rapports humains. C'est-à-dire que l'on gère, en fait, ses contacts comme on gère une entreprise, vous voyez. C'est exactement la même logique que ça sous-tend. On choisit de se connecter à un tel, on choisit d'être ami avec un tel ou pas. On a toujours cette logique, et la logique technicienne, d'avoir une maîtrise, en fait, du monde et de ce qui nous entoure. Et vraiment, au cœur des réseaux sociaux, c'est vraiment ça qui est là. C'est-à-dire de pouvoir vraiment gérer, comme une entreprise, un certain nombre de rapports. Et ça, je pense que nous sommes en train de perdre ce qui pourrait être, pour moi, ce qui pourrait nous permettre d'avoir une vie décente.
Samedi dernier encore, il y a eu aussi une réflexion sur l'implication sociale. C'était une dame qui disait que autour d'elle, elle voyait des gens qui n'avaient pas le temps de s'impliquer dans des associations et des syndicats. Mais par contre, ces personnes-là avaient le temps de passer 45 minutes sur Facebook tous les soirs. Mais en même temps, les plus technophiles, les plus optimistes des nouvelles technologies vous diront « Oui, mais s'il n'y avait pas eu Facebook, il n'y aurait pas eu de printemps arabe. » Alors comment vous répondez à cette question, cette double question sur l'implication sociale et les réseaux sociaux?
Alors sur la question des printemps arabes, c'est vrai qu'on a assez souvent cette remarque de nous dire « Regardez ce que ça a permis. » Déjà, c'est nier quand même que de par le passé, y compris encore récemment, un peu partout quand même, des gens sont toujours révoltés, ont fait des révolutions sans ces outils. On sait très bien, par exemple, qu'en 68, en mai 68 en France, la radio a joué un certain rôle. On n'a jamais réduit les mouvements de 68 à la radio. Vous voyez, le fait qu'à la radio, on annonce en 68 qu'il y avait des mobilisations, que les policiers étaient violents, etc., ça a fait descendre pas mal de gens dans la rue. Bon, ben, je ne pense pas qu'on ait réduit 68 à la question de la radio. Comme là, dans les printemps arabes, on sait très bien qu'en Égypte, notamment, la chaîne de télé Al Jazeera a joué un rôle sans doute, bien plus important que les réseaux numériques. On ne s'est pas dit, oui, c'est une révolution qui arrive grâce à la télévision. Je pense qu'on a exagéré, même si je ne le nie pas, mais on a exagéré très largement le rôle de ces nouvelles technologies, parce que ici, déjà, les gens qui étaient en contact avec des gens là-bas étaient des gens qui étaient en contact par des réseaux numériques. Donc, vous voyez, il y a eu un effet de perspective. On s'est dit, tout passe par là. Alors que pour avoir rencontré des Tunisiens ici, qui étaient venus ici en conférence, etc., disaient que le bouche à oreille, même les journaux, même des tracts très traditionnels, jouaient un rôle assez important. Mais on a beaucoup plus vu, évidemment, le rôle joué par ces nouvelles technologies, par cet effet de perspective. De plus, il y a chez beaucoup de commentateurs occidentaux qui sont déjà, je dirais, des technophiles, des technolâtres, l'idée de se dire que là, enfin, on avait la concrétisation de tous leurs rêves, qui était que ces nouvelles technologies allaient nous libérer de tout. On nous a même dit que ces technologies amenaient quasi automatiquement la démocratie. On a vu, en regardant la situation en Égypte et en Tunisie, mais dans d'autres pays arabes par la suite, que c'était beaucoup plus compliqué, qu'elles ont peut-être contribué, ça je ne le nie pas, à déboulonner des dictateurs, mais qu'elles ne permettaient pas forcément de créer derrière, je dirais, les conditions du développement d'une démocratie très loin de là. Et je dirais que la réalité a repris le dessus. On a vu que la situation politique était beaucoup plus complexe que ce monde très simplifié que veulent nous décrire toujours les cyberactivistes, et que là, on les a un peu moins entendus sur les suites de ces mouvements.
Dernière question, Cédric Biagini, une question plus générale sur la critique de l'ère numérique. J'imagine que c'est un sport de combat compliqué. Quels arguments vous renvoient le plus souvent? Technophobes, réac, des choses comme ça?
Oui, alors le plus classique, bon, c'est technophobe, hein. Souvent, même des gens qui vont faire une critique de ces nouvelles technologies, une critique, vous voyez, partielle, vont dire « je ne suis pas technophobe », comme si, en fait, il fallait tout de suite se défendre de ça, de ce qualificatif. Technophobe, évidemment, c'est un qualificatif qui est diffamant, puisque il contient le suffixe « phobie », qui signifie quand même la peur, et qui est quasiment pathologique, hein, c'est pathologiser une critique. Donc je trouve ça assez inadmissible de qualifier les gens qui critiquent les nouvelles technologies de technophobes. Les gens qui critiquent le capitalisme, on ne les traite pas de capitalophobes, vous voyez, ça ne relève pas d'une phobie, de quelque chose d'irrationnel. Au contraire, pour moi, quelque part, une certaine forme de raison, en tout cas, est du côté des gens qui critiquent cette déraison et cette démesure de ces nouvelles technologies. Après, on peut aussi nous dire réactionnaire, donc ça c'est assez conservateur. Alors sur la question du conservatisme, de toute façon, moi je mets déjà un postulat, hein, c'est que de toute façon, pour avoir une vie qui soit décente, qui soit vivable, nous sommes obligés tous de conserver un certain nombre de choses. C'est obligatoire, c'est-à-dire on ne peut pas envisager de vivre quand on sait que tout ce qu'on aime, tout ce qui nous a défini jusqu'ici est en perpétuel mouvement et peut changer sans cesse dans un an, dans deux ans, dans trois ans. Nous avons besoin quand même d'un certain horizon. Donc évidemment qu'il y a une part de conservatisme que nous devons maintenir. Après, si on voulait retourner l'argument, est-ce que les vrais conservateurs, hein, c'est au sens, comment on peut dire, on va dire, comment critique de ce terme-là, ne sont pas ceux qui pensent qu'il faut continuer à aller dans le mur, c'est-à-dire continuer la croissance, continuer à développer de plus en plus de technologies, qui veulent toujours donner plus de maîtrise, de contrôle à l'homme. Est-ce que ce ne sont pas eux qui sont dans une forme de déraison et qui sont conservateurs, c'est-à-dire qui maintiennent un système qui, je pense, va arriver de toute façon à ses limites dans peu de temps, hein, vu que la Terre est finie, qui est ce système productiviste, ce système de croissance. Et ces gens-là, en fait, dès qu'il y a un problème, au lieu de se remettre en cause, ils continuent toujours dans la même ligne à dire « Non, continuons à faire ce qu'on faisait avant, mais on va le faire encore plus vite, plus fort » et de manière encore plus coûteuse. Vous voyez, il n'y a aucune remise en cause finalement de système. Alors que moi, je m'inscris dans une tradition politique qui, au contraire, va chercher à remettre en cause tout ce qu'on peut nous faire croire, tout ce qu'on peut essayer de nous faire avaler comme couleuvre en nous faisant croire que rien d'autre n'est possible, qu'aucun autre système ne peut exister. Donc voilà, ces épithètes de conservateurs ou de réactionnaires sont totalement malvenus, puisque je pense qu'aujourd'hui le camp notamment des réactionnaires est plutôt du côté des gens qui défendent la technologie.
Cédric Biagini, auteur du livre L'emprise numérique, comment Internet et les nouvelles technologies ont colonisé nos vies, c'est paru aux éditions L'Échappée. À noter qu'il sera présent à Arras le 1er mai pour le Salon du Livre d'expression populaire et de critique sociale. Vous retrouverez l'intégralité de cet entretien sur notre site internet libre et sans pub, le www.radiopfm.com.
Tout le monde qu'on voyait dans tant d'écoles sont tous rendus ailleurs.
Cédric Biagini était donc samedi dernier à Liévin au Lag pour un débat organisé par CLIS21. CLIS21, c'est une coopérative qui promeut les logiciels libres. On en reparlera bientôt sur PFM. Sachez juste que le prochain débat organisé par CLIS21 se déroulera le samedi 1er juin et ça sera autour du coût environnemental du numérique.
T'as-tu vu les fesses à la tête qu'on voyait dans le temps? Facebook, 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 Facebook. C'est qui donc celui-là? On se souvient plus de lui parce que dans le temps c'était un petit gros. Il a tellement roulé sur le tapis roulant que maintenant on le reconnaît plus. Facebook, 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 Facebook. Facebook, 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 Facebook. Facebook, Facebook, mon meilleur ami, c'est Facebook, Facebook. Faudrait peut-être que tu sors de chez vous, chez vous. Facebook, c'est mon meilleur ami. Facebook, Facebook, mon meilleur ami, c'est Facebook, Facebook. 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 Facebook, Facebook, mon meilleur ami c'est Facebook, Facebook, mon meilleur ami c'est Facebook, Facebook, mon meilleur ami c'est Facebook, Facebook.